These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Samedi 30 décembre 2023, la toute dernière émission de Déo et Débat sur le 93.6.
C'est Radio Béton toujours.
Voilà, Déo Débat, tous les mardis de 18 à 19, tous les samedis de 12h à 13h. 2023. Mais quelle drôle d'année que cette année-là. Enfin, drôle, façon de parler. Hein. Malaisante serait peut-être plus appropriée, en tout cas au niveau politique. Alors, pour revenir sur cette année politique, qui n'annonce pas de lendemain heureux ni de grand soir, hein, nous recevons Charles Fournier, député de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Bonjour.
Bonjour.
Une année législative qui a été marquée quand même par de multiples 49.3, comme s'il en pleuvait, quoi. Il y en a eu combien finalement ?
Oh ben on en est à, je sais plus, on doit en être à 23 ou 24. Et pour
2023, une dizaine, quoi, c'est ben, ça ?
En fait, on peut au moins imaginer qu'à chaque période budgétaire, si rien ne change, on va se retrouver exactement dans la même situation. Voilà, donc dans le passage en force constant, puisque finalement, on est dans une situation où il n'y a pas de majorité, en tout cas,
absolue.
La minorité présidentielle n'a pas de majorité et que finalement, on n'a pas l'habitude de ça. Et donc, le gouvernement n'a jamais cherché finalement à ouvrir, à débattre, à discuter, à construire avec d'autres. Si, un peu avec la droite, mais jamais avec la gauche de l'hémicycle.
Est-ce que la gauche l'aurait accepté ?
Mais sur des sujets, si vraiment c'était de la construction commune, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison de ne pas l'accepter si ça pouvait faire progresser, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, du coup, bah oui, le 49-3, c'est le couperet qui tombe parce que finalement, il y a une majorité avec personne.
Parce que, quelles étaient leurs autres options ? Parce que c'est facile de rejouer le match, de dire, ouais, ils auraient pu construire avec nous, mais construire avec la NUPES, aujourd'hui, c'est, on reparlera de la NUPES tout à l'heure, en deuxième partie, mais construire avec la NUPES alors que le gouvernement est très anti-LFI, et LFI d'ailleurs est très anti-gouvernemental aussi. Donc, alors faire alliance uniquement avec certaines parties de la NUPES, avec les écologistes ou avec les socialistes, ça la foutrait mal aussi.
Oui, mais enfin, en vrai, ça dépend des
sujets. Donc, il en reste que la droite pour faire des alliances.
Oui, ça dépend des sujets. Parce que finalement, il y a des sujets où, si je reprends, par exemple, la loi sur les énergies renouvelables, en vrai, les groupes qui étaient les plus favorables à développer les énergies renouvelables, c'était la France Insoumise et les écologistes. C'est ceux qui étaient le plus sur ce sujet. Donc, si le gouvernement voulait vraiment une majorité, il pouvait la trouver de ce côté-là. Il n'a pas cherché à faire cet exercice-là. Et donc, il y a une position qui veut confondre LFI et l'extrême droite, en disant qu'il y aurait une extrême droite et une extrême gauche. Moi, pour moi, c'est évidemment pas acceptable. Et c'est la ligne qui a été tracée dès le début.
En fait, la Ve République ne cultive pas le consensus.
Non, alors que dans d'autres
parce que finalement, faire alliance avec les écolos, avec les filles, ou avec la droite ou le Rassemblement national, ça semblerait, vu de l'opinion publique, comme une espèce de renonciation à leur droit de domination.
Mais en fait, on est dans un système qui est fondé, on a des institutions qui fonctionnent sur le bipartisme, sur l'affrontement des blocs.
Et là, ça, c'est historique. Pôles, là.
Et là, on est, mais même plus que ça, en vrai, on a une proportionnelle qui a été imposée par les Français dans l'hémicycle. Quand on regarde au niveau du fonctionnement européen, on cherche, pour qu'un texte passe, on est obligé de faire des compromis avec d'autres. Là, on ne le cherche même pas. On est rapidement dans cet affrontement. Oui, oui. Et donc, voilà, soit c'est des majorités avec la droite, parce que finalement, la politique menée par Emmanuel Macron est de droite, soit c'est le 49-3, c'est à peu près comme ça que ça se passe.
On a l'impression que faire un compromis, c'est presque une compromission. Enfin, sans faire un mauvais jeu de mots, c'est facile.
Oui.
Mais non, un compromis, c'est un compromis.
Non, chacun, moi, je suis pour je suis pour qu'on soit capable de faire ces compromis. Je suis pour qu'on ait une culture politique qui évolue et qui soit beaucoup plus ancrée dans la recherche de ce compromis. Mais pour ça, ils font un fonctionnement bien différent. Là, on est sans arrêt à courir derrière des textes qui sont proposés par le gouvernement et sans arrêt des textes qui sont passés au Sénat, qui ont été durcis, en général, avant d'arriver à l'Assemblée nationale.
Des fois, c'est l'inverse. Ils passent à l'Assemblée, après
au
Sénat.
Mais de plus en plus, ça passe par le Sénat, ce qui est tout à fait nouveau, d'ailleurs.
Sur la loi immigration, est-ce qu'on aurait pu, parce qu'on en reparlera aussi, mais c'est une loi qui avait un volet quand même très à droite, entre guillemets, hein, c'était tout ce qui est expulsion, etc. Puis il y a un volet, alors je ne sais pas si on peut l'appeler de gauche, qui était plus régularisation, droit au travail. Est-ce que le gouvernement a voulu courir deux lièvres à la fois et évidemment n'a pas trouvé de majorité ? Et s'il avait fait deux lois, est-ce que vous, à gauche, vous auriez voté une loi qui faisait une régularisation un peu plus massive en négociant, en disant voilà, on vote votre loi, mais on veut plus de droits au travail, plus de régularisation. Est-ce que vous l'auriez voté celle-là ?
Mais oui, on l'aurait voté s'il y avait la régularisation, même si moi, la question des métiers en tension, il y aurait beaucoup à dire. Qu'est-ce que c'est qu'un métier en tension ?
J'ai dit trois au travail, qui, plus large.
Ouais, qui définit ce qu'est les métiers en tension, de quelle manière on le fait ? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais oui, bien sûr, nous aurions voté s'il y avait eu un texte de cette nature-là. D'ailleurs, il l'avait fait sur l'énergie. Il y avait un texte sur le nucléaire pour voter avec la droite, avec l'extrême droite, puis un texte sur les énergies renouvelables où la majorité était plutôt recherchée à gauche, même si elle n'a pas été cherchée profondément. Sinon, je crois qu'on aurait pu avoir un texte voté pleinement par la gauche. Mais travailler avec LFI, pour le gouvernement, c'est impossible. Je pense que c'est une erreur, parce qu'il y aurait des textes comme ça qui auraient pu passer. Évidemment, la vocation quand même de ce texte loi immigration, qui a vite perdu le mot asile d'ailleurs, hein, tout le monde l'appelle loi immigration, c'est la 30e loi depuis les années 80, c'était quand même le durcissement, c'était quand même de coller à l'opinion, en tout cas ce que l'on croit
la
penser de l'opinion
publique,
la soi-disant opinion publique, et que l'idée elle était quand même de rajouter de la difficulté pour celles et ceux qui veulent venir vivre ici, s'installer dans notre pays, ou traverser notre pays pour aller ailleurs, parce que quand même il y en a beaucoup, c'est ça qu'ils cherchent.
Pour revenir un peu sur l'Assemblée nationale, un peu, c'est toi par exemple, tu es dans quelle commission, sur quoi tu t'es spécialisé ?
Alors en fait, je suis dans la commission des affaires économiques, et donc j'ai des sujets qui viennent forcément de cette commission, mais j'en ai d'autres qui dépassent la commission, parce que c'est pas parce qu'on est dans une commission qu'on ne traite que ces sujets-là. Il y en a d'autres qui s'imposent à nous, sur lesquels on peut être mobilisé dans notre circonscription, par exemple. Donc moi, les sujets sur lesquels je travaille profondément, il y en a trois. Il y a la question de la réindustrialisation de notre pays, qui est pour moi un sujet majeur, qui est d'ailleurs un sujet qui a beaucoup à voir avec l'histoire du Rassemblement national aussi. Partout où il y a eu de la désindustrialisation, partout où on a abandonné notre capacité de production, eh ben on peut le regarder, c'est des territoires qui ont été mis en difficulté et c'est souvent des territoires qui votent Rassemblement national.
C'est pas très décroissant tout ça ?
Si, parce que je pense qu'on peut vraiment penser la réindustrialisation tout à fait autrement que celle qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je suis plutôt pour une réindustrialisation qui s'appuie sur le local et non pas la gigafactory, l'énorme... industrie descendante comme on est en train de nous
juste,
la préparer.
Juste une parenthèse, c'était juste ça le début du Front National à l'époque, parce que là quand on regarde au municipal ou au départemental dans les campagnes où il n'y avait jamais eu d'industrie, tu prends n'importe quel patelin dans les campagnes, il vote à 50% RN et il n'y a jamais eu d'industrie. Alors c'est la peur qui le fait voter. La peur de l'autre, c'est ce qu'on voit à la télé, etc.
Non, je crois qu'il y avait de l'industrie. Au contraire, il y avait de la manufacture, il y avait de l'artisanat, il y avait plein de formes d'industrie. L'industrie, ce n'est pas simplement la grande usine, c'est la manière de produire par nous-mêmes. Voilà. Et je crois qu'on a abandonné tout ça. Et donc, il y a eu des périodes de chômage. Mais évidemment, il y a aussi de la peur. Il y a aussi ce que l'on en raconte, ce que l'on dit de l'étranger. Mais ce n'est pas seulement ça qu'a nourri. C'est le sentiment du déclassement qui a nourri le vote du Rassemblement national. Et on s'est trop focalisé sur la question de l'immigration en oubliant les autres sujets. Donc moi, je travaille là-dessus, mais sur une approche décroissante de la réindustrialisation. C'est comment produire ce dont nous avons vraiment besoin, éliminer ce qui est futile, ce qui est délirant. Je vais vous donner un exemple, la fast fashion, je ne sais pas si je le prononce bien, mais cette mode qui fait qu'on va développer 1000 produits par jour jetables. Voilà, des vêtements jetables. On est dans un système complètement fou. Moi, je pense qu'on peut reproduire, remettre du textile dans nos territoires, mais évidemment, il faut du textile durable, il faut travailler sur la fin de l'obsolescence programmée, il faut travailler aussi sur une usine qui redonnera d'autres droits aux salariés, qui aura une autre vision du travail, qui remettra le sens au travail, qui remettra la démocratie au travail. C'est tout ça, la réindustrialisation. Donc ça, c'est mon premier sujet. Le deuxième, c'est les services publics, dans un état dégradé, et on peut le mesurer à tour avec l'hôpital, on peut le mesurer avec la justice. Et puis, le troisième sujet, c'est la démocratie. Voilà, moi, c'est les trois thèmes sur lesquels je travaille et à l'Assemblée nationale et en circonscription. Et dans ceux liés aux services publics, est venue assez rapidement la question de l'hébergement d'urgence, la question des enfants à la rue, qui a été un des sujets qui m'a embarqué à Tours, mais qui m'a embarqué plus largement nationalement.
En fait, ce n'est pas les électeurs qui te fixent ces objectifs.
Alors si, parce que tout ce que je fais aujourd'hui correspond à ce que je défendais pendant la campagne. Et donc, si j'ai été élu, c'est qu'au moins une part du programme qui était défendu, pour ceux qui ont voté, en tout cas pour moi. Voilà. Mais après, c'est aussi l'actualité qui fait évidemment le député. C'est-à-dire, c'est l'écoute de ce qui se passe.
Mais pourquoi Charles Fournier ne s'occupe pas d'écologie ?
Ah mais il s'occupe d'écologie quand il parle d'industrie, quand il parle des gens à la rue. Pour moi, c'est une affaire d'écologie.
L'écologie, c'est pas un sujet à part, c'est partout.
L'écologie, ça, le mot écologie vient du mot oikos, qui veut dire habiter. Pour moi, la question de l'écologie, c'est notre manière d'habiter sur Terre. Et là, on habite mal sur Terre. On habite de manière délocalisée. On habite séparé des autres. On se nourrit mal. On se déplace mal. Et en fait, tout ça, c'est de l'écologie. La manière d'habiter, le fait d'imaginer que des gens puissent être... L'écologie, pour moi, c'est profondément la solidarité. C'est indissociable. Donc, j'ai l'impression de faire de l'écologie. Mais par contre, je ne fais pas de l'écologie environnementale. Peut-être c'est ça le sujet.
Pas environnementaliste.
Pas seulement. Je me préoccupe de ça quand je travaille, par exemple, sur les polluants éternels. Vous savez, j'ai été un des députés qui a été testé dans ses cheveux. Et je suis la deuxième position des 14 députés qui ont été testés, qui a le plus de PFAS, de polluants éternels dans les cheveux. Et on se demande pourquoi j'en ai autant à Tours. La première, elle est à Lyon, c'est la vallée de la chimie. On sait pourquoi elle en a beaucoup. Nous, ici, il y a une vraie question. Bah, ça, c'est aussi de l'écologie et c'est aussi de la réindustrialisation. Donc, j'ai l'impression de le faire, mais à travers d'autres sujets. Parce que je crois qu'il faut que ça corresponde à la vie des gens. Se préoccuper de la réindustrialisation, c'est se préoccuper du travail, c'est se préoccuper de la manière dont on va produire à proximité, dans la manière dont on va réorganiser nos circuits de consommation et de production.
T'es député de l'opposition, alors on se dit l'opposition ne peut pas faire grand-chose, mais finalement, est-ce que ce n'est pas mieux d'être député de l'opposition où on est actif, on a droit à la parole, on dit ce qu'on veut, etc., que d'être dans la majorité où on est un peu godillot quand même?
Alors, je n'ai pas testé les deux, donc je te dirai le jour où je serai dans la majorité.
La prochaine législature, c'est
ça ? S'il y a une opportunité d'être dans la majorité. En vrai, j'imagine que c'est intéressant d'être dans la majorité quand tu portes des politiques, que tu es à l'endroit de les mettre en œuvre et d'y contribuer, si on te laisse de la place, si on a un régime parlementaire. Le problème dans notre pays, c'est que la place du parlementarisme est très faible, en vrai. Voilà. Et donc ça vaut pour la majorité comme l'opposition.
Le Parlement veut prendre. Mais, parce que la Constitution fait que c'est le Parlement qui décide du Premier ministre, quand même.
Oui, sauf que c'est assez peu sur les initiatives parlementaires, sur les textes de loi, la place qui est accordée aux textes venant du Parlement est très faible par rapport aux textes venant du gouvernement. Le gouvernement a la maîtrise de l'ordre du jour. Il a la maîtrise des votes. Il peut même faire revoter quand le Parlement a voté dans un sens qui ne lui convient pas. On appelle ça la deuxième délibération. C'est-à-dire dans la même soirée, il peut refaire un vote s'il n'est pas d'accord avec le vote. Ce qui a failli se passer d'ailleurs sur la loi immigration.
Ça, c'est lorsque le gouvernement, l'exécutif, a la même majorité, alors même si c'est une majorité relative, que le Parlement. Le jour où le Parlement a une majorité différente, bah, il ne fait pas ce qu'il veut, le gouvernement.
Ah bah non, mais évidemment. Hein.
Donc c'est bien le Parlement qui a la voix, s'il le voulait.
Oui, sauf qu'on l'a en bout de course. Ouais. Moi, je parle de l'initiative parlementaire, je parle de la fabrique de la loi. Je ne parle pas simplement du pouvoir de dire stop. Évidemment qu'on a ça. Et d'ailleurs, on l'a tenté, il y a eu une émotion de censure en ce sens-là. Mais moi, je parle de la fabrique de la loi. On a une place très faible quand même dans la fabrique de la loi. Et moi, je crois qu'on pourrait avoir un régime beaucoup plus parlementaire où il y aurait plus de ça, plus de place. Donc pour ceux de la majorité, évidemment, bah souvent, ils ont moins de place puisque c'est le gouvernement qui travaille. Et pour ceux de l'opposition, moi, j'ai l'impression de faire beaucoup de batailles culturelles. Moins de produire des textes ou des amendements. J'ai fait beaucoup ça au début. Puis je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais beaucoup de défaites à mon actif à la fin. Et que
c'était démoralisant.
Ah, mais oui, mais que du coup, ma première loi, c'était sur le pouvoir d'achat. J'avais déposé, je ne sais plus combien, 23 amendements. Et j'en avais eu, je crois, 14 irrecevables. Voilà. Et donc, très rapidement, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas continuer à faire ça pendant 5 ans. Mon exercice, c'est aussi d'aller travailler à la bataille culturelle, d'aller faire évoluer les réflexions sur des sujets. J'organise beaucoup d'événements. Quand je fais ma permanence, je la transforme en lieu d'accueil pour les enfants à la rue. C'est une manière de pousser aussi ces questions de solidarité dans la population, auprès du gouvernement. Voilà, donc c'est aussi ça l'exercice d'un député. Je fais les deux, évidemment. Je continue à déposer des amendements, je vous rassure.
On a parlé de l'avalanche des 49.3 qui a enclenché une avalanche de motions de censure. Ouais. Pour l'instant, ces motions de censure, elles ont toutes échoué. Ouais. S'il y en a une qui, finalement, serait victorieuse grâce au Rassemblement national, c'est la seule solution pour qu'une motion de censure soit victorieuse, ce serait une vraie victoire, ça ?
Non, je ne crois pas. Parce que alors, d'abord, peut-être le dire, parce que c'est souvent le petit jeu dans l'hémicycle, c'est dire « Ah, bah, vous avez voté avec le Rassemblement national ». Alors, tout le monde se le renvoie, la majorité, parce qu'il y a des textes qui passent avec le Rassemblement national. En vrai, quand on a de la proportionnelle dans un hémicycle, bah oui, des fois, les voix vont aller dans le même sens, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on a préparé ensemble des votes. Et donc, voilà, je veux dire, si le Rassemblement national décide de voter une motion de rejet comme... pour s'en servir.
Ce qui s'est passé.
Voilà, bah, dont acte. Mais nous, on ne va pas calculer nos positions en fonction de ce que serait le vote des autres. Sinon, ça perd toute signification, finalement, de notre engagement politique. Et ça, c'est inacceptable. Non, moi, je ne trouve pas que ce serait satisfaisant parce qu'en vrai, il n'y a pas d'autre majorité possible aujourd'hui. Il faut le dire. Le gouvernement le dit et c'est un point avec lequel je peux être d'accord. il n'y a pas d'autre majorité alternative à cet instant. Donc ça veut dire retourner devant les urnes. Ce serait la seule hypothèse. Et devant les urnes, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, je serais très satisfait du résultat à l'instant T. Parce que je souhaite que la gauche soit en capacité de devenir une évidence. C'est ce que dirait François Ruffin et je partage ça. Aujourd'hui, on est plutôt une résistance. Mais personne ne se dit « Ah oui, la gauche, elle est complètement en capacité aujourd'hui de gouverner. Et si elle était aux manettes, ça changerait la vie. » Voilà, le jour où à ces questions-là, on répond « À la fois, ça va changer la vie et à la fois, ils sont capables de le faire. » On sera là dans une position pour gouverner. Moi, je souhaite que ça soit ça et je souhaite qu'on travaille à ça et qu'on mette toute notre énergie là-dedans. Je passe beaucoup de mon temps aussi à faire du lien. J'ai travaillé beaucoup avec François Ruffin, je fais venir Clémentine Autain le 12 janvier à Tours, je fais beaucoup d'échanges avec Delaporte du Parti Socialiste, je travaille avec Sébastien Jumel du Parti Communiste, bref, avec l'idée de faire vivre des liens entre des personnes, parce que les organisations politiques, aujourd'hui, c'est plus compliqué, peut-être, dans le moment dans lequel on est, et donc il y a par contre des tas de gens qui travaillent ensemble, et moi je veux montrer que ça existe et que la gauche, elle est capable de construire une alternative.
La gauche en reparlera un peu plus tard, mais là, pour finir sur le rôle de député, sur le département, localement, les relations avec le nouveau préfet, enfin, qui a déjà un an, presque, parce que l'année dernière, on apprenait que la préfète était remplacée, voilà, avec le nouveau préfet, comment ça se passe? Il y a des relations?
Il y a des relations avec les services de la préfecture d'une façon générale. J'ai des relations avec lui. Moi, j'ai un regret assez fort, c'est qu'au moment où j'ai déclenché mon action sur les enfants à la rue, le préfet ne m'a pas appelé. Et lui, il considère que c'était à moi de l'appeler.
Il a été interviewé quand même par
France 2. Il a fait de la communication à côté.
Il est venu dans des locaux d'un hébergement d'urgence.
Mais face à la situation, face à ce que j'ai fait, qui est quand même une situation exceptionnelle, j'estime que le préfet, c'est de sa responsabilité de me contacter. Je ne voulais pas qu'il me trouve de la place parce que c'était le risque. Il me trouve de la place pour les 5 familles que j'avais dans ma permanence. Puis finalement, le sujet était réglé. Moi, les 5 familles étaient les témoins des 40 enfants qui dorment tous les soirs dans l'eau, des 100 familles qui ne trouvent pas de place via le 115 toutes les semaines. Et donc, j'estime que c'est au gouvernement d'être à l'écoute. J'ai écrit au ministre, j'ai écrit au préfet, j'ai remué ciel et terre. Il y a une pétition qui est signée par 20 000 personnes, par tous les maires des grandes villes en France. Et pour l'instant, il y a zéro réponse. Non, on fait déjà ce qu'il faut. C'est pas vrai. Et on ne fait pas ce qu'il faut. Ce soir, la question que je posais au gouvernement dans l'hémicycle, c'est où dormiront les enfants? Et à cette question, on ne répond pas et on laisse des enfants dormir dans la rue. Il y a une digue morale qui est tombée là. Finalement, ça devient presque... Voilà, on va banaliser ça. Et ça, c'est insupportable.
Et globalement, oui, plus 50 à 100% par rapport à il y a un an ou deux de gens qui n'ont pas de solution le soir.
Clairement. Voilà. Et dedans...
Des enfants, des familles, des hommes...
Mais aussi des gens qui pourraient relever du logement social si les moyens d'accompagnement étaient plus forts, si l'accès au logement social était renforcé. Tous les services et les acteurs font leur boulot, que ça soit très clair. Jamais je ne mets en cause ni les fonctionnaires ni les associations qui font le travail. Mais ils le font dans des conditions où ils gèrent de la pénurie. Voilà, c'est un choix. Si le gouvernement avait ouvert les 10 000 places dont nous parlons, c'est 160 millions d'euros que ça aurait coûté. 160 millions d'euros, c'est l'écart entre ce qui a été dépensé en 2023, c'est-à-dire 3,1 milliards, et ce qui est projeté en 2024, c'est-à-dire 2,9 milliards. Voilà, on a réduit la capacité du budget pour l'hébergement d'urgence en 2024. Les 160 millions d'euros, on pouvait les absorber sans difficulté. Et c'est 10 000 places en plus en France qui sont urgentes. La Fondation Abel Pierre le dit, toutes les grandes ONG le disent, c'est pas une lubie de ma part. C'est largement partagé. Même des députés macronistes ont signé la tribune que j'ai lancée dans Le Monde. Des députés macronistes, des élus macronistes à Lille, dans l'opposition, ont voté un vœu allant dans ce sens-là. Là, je crois que c'est irresponsable de la part du gouvernement de ne pas entendre cette demande. Et être député, c'est aussi se batailler pour ça. Voilà. C'est aussi là que se fait la bataille.
Mais là, l'hébergement d'urgence, ce n'est pas la solution. C'est que ça ne se vide pas. C'est-à-dire que ça se remplit, ça ne se vide pas. Il faudrait une construction de logements sociaux. Et là, il y a une pénurie quand même de logements sociaux qui est énorme.
En fait, les deux sont importants. Moi, je pense à ce que l'a fait la ville de Vienne. C'est moins le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas. La ville de Vienne, elle gère du parc en direct, sans intermédiaires, sans bailleurs sociaux. Elle a un parc et sa logique, c'était mise à l'abri immédiate. Puis ensuite, on voit comment on accompagne les personnes. Mais c'est mise à l'abri immédiate. Zéro personne à la rue. Eh bien, à Vienne, il y avait zéro personne à la rue. Nous, il y a quand même cette logique de priorisation, de discrimination en fonction des situations des personnes. Et donc, si on ne rentre pas dans la case. Et donc, on a un problème de production de logement social et d'accès au logement social, évidemment. Mais on a aussi un problème immédiat de mise à l'abri des personnes. Moi, quand je pense aux jeunes mineurs non accompagnés, quand il y a eu la tempête à Tours, on les a mis dans un bâtiment Moi, j'ai été dans ce bâtiment. C'est la ville qui était responsable puisque c'était ce qu'on appelle le plan de sauvegarde. Mais dans ce bâtiment, il n'y avait ni toilette, ni douche. Il devait faire 500 mètres pour aller faire pipi. Il y a un moment donné, peu importe ce que l'on peut penser de tous ces sujets, de comment ces gens sont arrivés, quand ils sont là, que fait-on ? J'ai été à Calais la semaine dernière. Je veux dire, c'est à pleurer ce qui se passe à Calais. C'est à pleurer. Et avec la loi immigration, le risque que l'on prend, c'est d'avoir des Calais partout. C'est qu'avec des gens à qui on ne donne plus de droits, eh ben on va avoir des gens qui vont être dehors parce que c'est pas parce qu'on aura durci la loi qu'on va, du jour au lendemain, tout le monde va être expulsé.
Des OQTF.
Voilà, eh ben, des OQTF, ça peut durer des mois. Et à Calais, on a des gens, tous les deux jours, on les harcèle pour les déplacer. Ils vivent dans des conditions... Il y a eu des inondations là-bas. Moi, j'ai été juste après les inondations, dans la boue, dans des conditions, mais inhumaines. Moi, j'ai vu la déshumanisation à l'œuvre. Les associations, elles n'en peuvent plus. C'est elles qui m'ont demandé de venir. Elles disent stop. Elles sont même, elles, blacklistées par les services de l'État. C'est scandaleux. Je le dis, on a un État qui est maltraitant sur ces questions-là, comme il l'est d'ailleurs parfois aussi sur les questions de l'aide sociale à l'enfance. Je pense qu'on a un État défaillant sur ces sujets et qu'il faut remettre ça sur la table. Et peu importe les positions que l'on peut avoir sur les questions de migration, je le dis, on a, une fois que les gens sont là, il y a un devoir d'accueil, de prise en charge.
Et d'humanité.
Et quand c'est des enfants, il y a ce qui s'appelle la protection de l'enfance. Et la protection de l'enfance, elle est constitutionnalisée. Et donc, il y a un devoir supérieur de l'enfant. Et ça, on n'y répond pas. Et si on accepte ça, c'est pour ça que je me bats là-dessus. Parce que si on accepte ça, alors c'est la porte ouverte à tant de choses inacceptables.
T'es ressorti comment de l'épisode des lois immigration, là, complètement défait ou
Ouais, très mal. Très mal. Très mal, meurtri. En plus, comme c'était dans la même séquence... Des enfants à la rue de Calais. Moi, ça me meurtrit personnellement. Il y a un soir, je rentrais de Paris, j'ai été dans ma permanence déposer un dossier. Et puis, comme j'avais accueilli des familles, il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte, une femme avec un enfant de 3 ans. Il était 21h30. Elle m'a dit, j'ai pas d'hébergement pour ce soir avec son petit bout de chou de 3 ans. Voilà, j'ai appelé tout le monde, le 115, je suis tombé sur la messagerie pleine. Voilà, mais c'est comme ça, parce qu'il y a pénurie. Et j'ai appelé toutes les assos à 21h30. Évidemment, tu arrives à joindre personne, ce qui est normal. Et je ne pouvais plus héberger cette famille parce que j'avais plus de lit, plus rien dans ma permanence. Et je l'ai donc remis à la rue. Moi, je suis rentré chez moi, j'avais des larmes de rage et d'incompréhension en me disant, c'est pas possible. Et ce petit bout de chou, je lui ai trouvé un nain dans ma permanence qui restait de l'hébergement. Je lui ai donné en lui disant qu'il allait passer la nuit avec lui. Mais bon, vous voyez, voilà. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Donc, je suis ressorti très bouleversé par cette période. Je me dis, mais comment on fait pour réveiller cette France solidaire qui existe? J'ai reçu plein de messages de partout en France, de gens qui m'ont dit « bravo pour ce que vous faites ». Toute l'énergie que je mets en ce moment, c'est pour montrer tous ces gens solidaires. Les gens qui travaillent au 115, c'est pour ça que je suis venu au 115. Parce que derrière, il y a des gens, des métiers du lien. Il y a plein de gens extraordinaires dans notre pays.
Des gens qui connaissent les situations.
Mais je veux que ces gens s'expriment et qu'on n'entende pas que finalement le discours un peu rance qui expliquerait que tous nos problèmes viendraient des immigrés.
T'as reçu sûrement aussi des messages de haters aussi.
Ouais, oh bah plein. Puis
Charles Fournier, la gauchiasse, tout ça.
Voilà, c'est ça. Bien sûr, puis des insultes, des menaces, j'en ai plein. Et puis vous avez... le plus drôle, c'est quand j'ai fait mon intervention dans l'hémicycle et qu'il y a un député de droite qui a dit, vous avez qu'à les prendre chez vous. Donc j'avais pas encore expliqué que je les prenais dans ma permanence. Et puis une fois que j'ai dit que je les avais pris dans ma permanence, il a dit ah non, c'est illégal. C'est pas déontologue. Vous allez, c'est de l'argent public. Vous dépensez de l'argent public. Voilà. Donc c'était édifiant, il y a eu tout un petit... ça a fait pas mal de bruit cet échange-là, parce que ça a fait un peu le tour des réseaux sociaux. Voilà, je me dis... l'abbé Pierre disait quelque chose qui est pour moi tellement vrai dans le moment dans lequel nous sommes, c'est que les politiques voient beaucoup la pauvreté par des chiffres, par des statistiques, mais qu'on pleure pas devant des statistiques. Et que je trouve qu'il faut retrouver la capacité à s'émouvoir devant ces situations, s'indigner, aurait dit... j'ai oublié son nom dans l'instant, pardon. Je crois qu'il faut retrouver cette capacité de s'indigner et d'être solidaire, et que c'est un combat politique, et que c'est pas... à dissocier. La politique, c'est pas quelque chose de froid, c'est aussi quelque chose qui est porté par des valeurs. Et donc là, en l'occurrence, moi, c'est les valeurs de l'humanisme qui me semblent devoir être mobilisées dans le moment.
Eh bien, on va se faire une première pause musicale. J'ai calé la pause musicale avec un groupe. Tout à l'heure, ce sera une pause à toi, ouais. Mais là, c'est une pause béton, une pause d'Albéton. D'Albéton, un groupe qu'on aimerait bien venir, qui vienne faire un petit tour en Touraine. Pour nous parler du 49.3, ça s'appelle 49.3 par Dal Béton sur la radio Béton.
peut pas passer.
49-3,
t'as pas la majorité.
49-3,
Ruffin veut pas la fermer.
49-3,
les députés sont dissipés.
49-3,
la France a manifesté.
49-3,
rien à foutre la CGT.
49-3,
fais voir les gens travailler.
49-3,
fais pas trop les retraités.
49-3,
longue journée à l'Assemblée.
49-3,
t'as envie d'aller te coucher.
49-3,
ta voiture est mal garée.
49-3,
ta réforme peut pas passer.
History, the people of have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Eh bien, deuxième partie de cette dernière émission de l'année 2023 de Déo et Débat sur 93.6 avec Charles Fournier. Avec lui, on fait un petit peu le tour de cette actualité politique 2023. Et on tirera peut-être quelques bords sur 2024. Mais j'avais d'abord une petite question à la con. Je regarde très souvent une émission à la télé qui s'appelle Le Quotidien. Et il y avait un petit retour sur le lancement de la campagne européenne des écologistes. Et j'ai vu une démonstration de twerk. Et il m'a bien semblé t'avoir vu au premier plan en train de danser. J'ai presque trouvé ça malaisant. Est-ce que le twerk, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant?
Alors d'abord, c'était pas le twerk. C'était la bouti-thérapie. Ce n'est pas exactement pareil.
La bouti-thérapie.
Bouti-thérapie, oui. Pardon, je ne le prononce pas.
Franchement. Ce sont des nanas qui agitent leur popotin.
Oui, mais ce qui est expliqué, c'est qu'elles le font. Justement, c'est plutôt des gens qui ont vécu des violences la plupart, que ça s'est retrouvé aussi un rapport à son corps plus positif. Et c'est de sortir justement du corps parfait, voilà. Maintenant, je vais te répondre très clairement. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait ça, mais j'ai joué le jeu. Moi, je suis là, je suis dans un meeting, je participe. Je trouvais plutôt sympa qu'il y ait un moment un peu... on est à l'Élysée-Montmartre, c'est un samedi soir et qu'on n'ait pas le meeting, parce que sinon, tout le monde aurait dit qu'est-ce que c'était chiant comme meeting. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est... peut-être la différence que je ferais, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y avait un message politique clair. Voilà. Et que c'est plutôt un message de bien-être, d'estime de soi, qui me paraît un message important. Parce que l'écologie, c'est aussi ça. C'est aussi un état d'être. Mais le message politique, du coup, a gommé le reste.
Je ne remettais pas en cause thérapie.
Hein. Mais c'est le message, par ailleurs, qui pouvait être porté dans ce meeting qui a disparu, alors qu'il y avait des choses très intéressantes qui ont été racontées. J'avais emmené quelqu'un avec moi qui n'avait jamais fait de meeting et qui a été très touché par plein de messages dans ce meeting. Mais à la fin, tout ça était trop long, ça a pris trop de place et ça a abîmé le message qui en ressortait. Je dirais, certains se disent, bon, ben finalement, on a quand même parlé de ce meeting, on n'en aurait peut-être pas parlé s'il n'y avait pas eu tout ça. Ça, je ne sais pas, je laisse aux communicants nous dire si c'était bien malin ou pas. Moi, sur le moment, j'ai joué le jeu parce que je suis au premier rang, voilà. Mais je me dis, c'était pas une efficacité redoutable. Pour autant, dans ce meeting, il s'est dit plein d'autres choses extrêmement intéressantes, mais c'est pas ce qui a été retenu.
On va parler maintenant un petit peu de d'actualité internationale, puis justement de la NUPES, ouais. Cette fameuse NUPES. Première petite question, mais au début, tu étais favorable, toi, à cette alliance de gauche ?
Oui. Et je le reste totalement. Alors, comme je l'avais dit, d'ailleurs, je pense l'avoir dit ici, c'était un sursaut. C'était pas une construction longue avec de la maturation dans les propositions. C'était un sursaut dans un merdier dans lequel nous nous étions mis les uns les autres. Et donc, elle était indispensable. Je pense que je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu ce sursaut collectif. Pour autant, c'était fragile. Et que ce qui a manqué derrière, c'est pas simplement que les partis se parlent entre eux, mais c'est tout ce qu'on pouvait construire avec la société civile. Moi, j'étais responsable notamment de ce qui s'appelait le Parlement de la NUPES, qui est devenu après l'Agora, voilà, qui était ce lieu où on devait organiser une délibération, un débat à gauche avec la société civile, les acteurs associatifs, les syndicats, etc. Ça n'a pas été mis en œuvre. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage. Parce que chacun, à ce moment-là, s'est replié sur ses propres stratégies, sur ses enjeux, parce que peut-être que la donne de départ était trop basée sur la réussite forte de la France insoumise à l'élection présidentielle, et que tout ne pouvait pas se construire là-dessus. Si on veut aller vers une union de la gauche...
Faut être large.
Puis il faut surtout ressortir de hiérarchie qui se serait créée par telle et telle élection. Ça, d'abord, ça n'intéresse que les partis politiques, et ça ne fonde pas un projet commun. Moi, un projet commun, c'est quand on finit par oublier d'où viennent chacune des parties. C'est ce qu'on arrive à faire quand on gouverne ensemble, quand on travaille ensemble. C'est ce qui se passe à la ville de Tours. Qui se rappelle exactement quelle est l'origine de tel ou tel adjoint ? Voilà. C'est dans mon parlement de circonscription que j'ai mis en place à Tours. Il y a des gens qui viennent de partout. Et à un moment donné, on bosse ensemble, on fabrique ensemble. Et là, on dépasse les enjeux de boutique politique. Voilà. Et donc, moi, je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Là, on est dans un moment difficile parce que chacun s'est replié. Je trouve qu'on a fait trop de bruit autour des élections européennes qui sont une forme d'élection proportionnelle qui permettent à chacun de se représenter sans qu'on se déchire. Je fais une différence entre partir séparé et partir divisé. Voilà, là, on est en train de faire en sorte de partir divisé alors qu'on pourrait simplement partir séparé sans que ça soit un drame. J'aurais été plutôt favorable à ce qu'on travaille à essayer d'être ensemble. Mais pour moi, c'est surtout le chemin que l'on construit derrière, localement et nationalement.
C'est une défaite de partir aux européennes, chacun de son côté,
non,
ou pas ?
Franchement, ce qui serait une défaite, c'est que derrière, on n'arrive absolument pas à construire les prochaines échéances, les municipales, les élections présidentielles, les élections législatives, et qu'on ne fabrique pas un espoir à gauche.
Là où le mode
l'échec,
de scrutin...
L'échec, c'est que ce que nous racontons, nous, n'apparaisse pas pour les gens comme une perspective. Ça, c'est pour moi l'échec, c'est que si on ne fait pas le boulot de fond pour allier... je vais vous donner des exemples. François Ruffin, il parle beaucoup du travail. Il a raison. Mais ça ne suffit pas de parler du travail. On a des gens qui parlent très bien du temps libéré. Voilà. Des écologistes qui imaginent comment on va réduire le temps de travail. Ça, c'est important. Et comment on fait la synthèse entre les deux ? Comment on n'oppose pas l'un et l'autre ? C'est tout ce boulot-là qu'on n'a pas fait.
Comment
on a un projet de société qui donne envie aux gens ? Et je pense qu'on n'y est pas là.
Comment on élargit à la gauche qui est hors de la NUPES ?
Oui, mais
parce
bien
que quand on parle des fois à la NUPES, il y en a qui disent « Non, mais la gauche, c'est la NUPES, en dehors, c'est plus la gauche. »
Je vais donner l'exemple.
C'est très exclusif.
Pense qu'il faut sortir de ces procès en gauche. Je vais donner un exemple du débat sur les retraites, de ce qui, pour moi, a été raté sur les débats des retraites. La retraite, ça ne peut pas être la récompense d'une vie de labeur où tu en as chié pendant toute ta vie, pardon pour l'expression, et où tu dois avoir une bonne retraite parce que tu as travaillé voilà. C'était l'occasion de réinterroger le travail, le sens du travail, la démocratie au travail, la place du travail. On n'a pas fait ça, la gauche. On a bataillé, et on avait raison de le faire, sur la taille des pensions, sur les règles du jeu, l'âge de départ, mais pas sur le modèle de société qu'on pouvait porter derrière. Moi, je le dis, c'est ce boulot-là qu'il faut faire. Et que là-dessus, à gauche, on a des différences, mais je pense que si on y travaille profondément, on arrivera à avoir un projet qui est désirable. Il ne suffit pas de dire retraite à 60 ans. Ça ne suffit pas. Il faut dire c'est quoi notre vision du travail ? C'est quoi demain travailler à l'usine dans une France à 50 degrés ? Ça veut dire quoi la démocratie au travail ? Ça veut dire, par exemple, que le travail a au moins autant de place que le capital dans les décisions à l'intérieur des entreprises. C'est une révolution d'engager ça. C'est ce boulot-là qu'il faut réussir à faire.
C'est dire aussi qu'après...
Ça s'appelle l'économie sociale et solidaire.
Une vie de travail, on peut aussi continuer dans des associations, du bénévolat, c'est aussi du travail.
Oui, et puis que la réduction du temps de travail, c'est pas forcément à la semaine, ça peut être...
Sur la vie.
La vie. On peut, pendant 2 ans, faire autre chose, on peut aller en formation, on peut faire un congé sabbatique, on peut... C'est tout ça qu'il faut remettre sur la table. Et je pense qu'il y a une aspiration. On est quand même le troisième pays européen le plus insatisfait sur la vie au travail. C'est depuis le Covid, c'est une catastrophe. Et la grande démission, tous les ingénieurs, mais ça ne touche pas que ces secteurs-là.
Pas que de ce
non, tu les gens ils sont malheureux au travail.
Et ils s'en vont.
Retravailler sur la question du mal-travail, c'est central. Et la gauche, elle ne peut pas passer à travers ça. Par contre, si elle n'est que dans des logiques du travail liées à la question de la production, les rapports de production, ça ne marchera pas. Il faut l'inscrire dans une perspective écologiste. Il faut l'inscrire dans une perspective où le travail va trouver une autre place. Voilà, et c'est tous ces sujets. Je pense que ce boulot-là, il n'est pas totalement fait, la NUPES ne l'a pas fait.
Est-ce qu'il n'y a pas des personnes au sein de la NUPES qui sont clivantes et qui... bon, on va le citer, oui, mais... Jean-Luc Mélenchon, qui fait plus repoussoir par rapport à un certain nombre, attractif pour certains, mais qui réduit finalement la gauche à sa plus petite expression.
Fais gaffe, François, on va te prendre pour un éléphant du PS. Là,
ouais. Non, mais je dis qu'en dehors de... En vrai, je pense que c'est un repoussoir. Il y a des gens de gauche qui sont forcément des éléphants du PS et qui disent, insupportable. Quoi.
Oui, mais en fait, on peut y aller.
Les réflexions qu'il fait, les tweets, etc. C'est insupportable.
On peut y aller. Il y a des gens au PS qui apparaissent comme repoussoir. Il y a des gens chez les écologistes qui apparaissent comme repoussoir. Voilà. Moi, le truc, c'est que si on se concentre sur qui est repoussoir et pas qui est attractif... C'est le sujet. C'est-à-dire que ceux qui sont attractifs sont pas ceux qui sont sur le devant de la scène. En vrai, il faut inverser ça. C'est-à-dire que il faut que... Moi, j'appelle à une équipe de France, de la gauche et des écologistes. Et je la vois, cette équipe. Moi, je vois tous ces gens qui...
T'as des noms ?
Mais oui, mais j'en ai plein.
On a cité déjà quelques-uns.
Mais j'en ai cité,
sauf
mais je peux
citer... Sauf que pour les présidentielles, il faut un nom.
Ouais, mais ça, c'est après. Pour l'instant, il faut une équipe. Et qui pèse le plus ? Le Premier ministre ou le président de la République dans une sixième République, puisque nous aspirons à une sixième République ? C'est le gouvernement. Ça sera le parlementarisme qui tiendra une place plus importante. Donc cette équipe, moi je la vois. Chez les écologistes, il y a plein de gens avec
des
talents.
T'es donc prêt à bosser avec Mélenchon ?
Mais moi je suis prêt à bosser avec la gauche, avec ceux qui portent des valeurs rapprochées. Moi avec la France Insoumise à l'Assemblée Nationale, sur beaucoup de sujets on se retrouve. Il y a des sujets où on se retrouve pas du tout. Mais il y a des sujets où je travaille avec eux. Je pense qu'il faut dépasser ça.
Mais en fait, François, il parlait pas tellement des sujets, il parlait de l'attitude.
Les sujets, on est d'accord.
C'est vrai que Mélenchon, il est emmerdant.
Oui, mais il est
énervant. Quoi.
Mais je peux te dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été emmerdantes. Je pense qu'il faut passer à une autre perspective et que cette perspective, elle sera collective ou elle ne sera pas.
Voilà, finalement, tu préfères Ruffin que Mélenchon.
Ouais, j'en sais.
Tu l'as plus.
Non, mais parce que je travaille bien avec lui. Ce que je veux dire, c'est qu'avec lui, je vis des choses concrètes. J'ai passé une après-midi en Picardie chez lui, à interviewer des salariés de la logistique qui vivent quand même des situations extrêmement difficiles. Voilà, donc moi, je veux faire avec des gens. Et donc, tous les gens qui sont prêts à faire ensemble, moi, je crois à ça. Voilà, je crois à ce qu'on va fabriquer ensemble et indépendamment des noms. Je ne crois pas en l'homme providentiel ou en la femme providentielle. Je ne veux pas ça. Et je ne veux pas dire aujourd'hui, voilà celui en qui je crois. Ça, je pense que c'est mortifère et que ça reproduira les mêmes effets que ce qu'on a connu.
Qu'on veuille ou non, il y a un moment, il y a la présidentielle qui prend toute la place et c'est une personne.
Oui, mais ça vient après ça. C'est-à-dire, d'abord...
Non, mais d'accord. Hein,
là, moi, par exemple, aujourd'hui, je voudrais qu'on mette en place un shadow gouvernement. Je voudrais que chaque ministre de ce shadow gouvernement travaille avec des acteurs de la société civile pour fabriquer de la pensée, pour fabriquer de la perspective. Voilà, je voudrais qu'on ait un ministre de la solidarité avec qui, là, je pourrais bosser sur les questions de solidarité, des perspectives. Je voudrais qu'on montre que nous sommes capables de gouverner et que nous sommes prêts et que nous allons faire le travail, si nous ne le sommes pas tout à fait aujourd'hui, pour l'être. Il y a plein de sujets sur lesquels on doit bosser ensemble, et je crois que ça dépasse les partis. C'est les partis, la société civile de gauche, qu'attend que ça, qu'on lui propose un cadre pour travailler. Elle ne veut pas travailler avec la France Insoumise, elle ne veut pas travailler avec les écologistes, elle ne veut pas travailler avec le Parti Socialiste, elle veut travailler avec tout le monde, cette société civile, et garder son indépendance. Et c'est ça qu'il faut qu'on fabrique dans les mois qui viennent.
Tu es quand même sacrément optimiste.
Bah, si je vais te le dire, en fait, franchement, je fais ça... Je fais des hauts, alors ça se voit pas, des hauts et des bas.
Des hauts et des bas,
Je fais des hauts et des bas. Il y a des moments où je me dis, mais franchement, c'est désespérant. C'est désespérant. Quand on vote la loi immigration, je me dis, c'est désespérant. Mais quand le samedi dernier, plus de 60 personnes des organisations de toute la gauche associative se réunissent spontanément devant ma permanence, alors d'ailleurs, on a dû aller ailleurs parce que c'était trop petit dans ma permanence, pour dire, c'est pas acceptable cette loi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer une alternative, pour pas laisser faire ça, pour faire en sorte que cette loi ne soit pas appliquée, je retrouve de l'espoir. Voilà, donc je fais le yo-yo quand même un peu.
Contrairement à ce qui se dit dans les médias, où la France a basculé massivement à droite, voire à l'extrême droite, il y a un peuple, il y a des personnes, la gauche existe toujours.
Ouais, moi je
il y a une gauche large, une gauche tolérante, une gauche économe, une gauche sociale.
Mais elle existe, mais il faut la nourrir. C'est-à-dire que si on n'est pas là pour donner de l'espoir, de la perspective, eh ben oui, ça va nourrir le fait que si je suis dans la merde, c'est parce que c'est à cause de l'immigré ou à cause de celui qui ne travaille pas et qui perçoit des allocations. Si, voilà, le risque, c'est de nourrir ça. Si nous, on n'est pas là à proposer autre chose, à construire autre chose, à créer des espaces où les gens vont se voir pour faire ensemble, alors oui, à la fin, ce qui gagnera, ça sera ça. Les sondages le montrent. Quand on regarde sur l'AME, on a des sondages totalement contradictoires. On a des gens qui disent ouais, « c'est un scandale », mais ça dépend comment on pose la question. Il y en a d'autres qui se disent « ah ouais, mais en vrai, s'il n'y a pas l'AME, on va avoir des tas de gens malades, on peut tous être malades. Voilà. Il peut y avoir des contagions. » Voilà. Et les rationalités, on les retrouve quand on travaille, quand on débat, quand on discute. Si on interroge les gens spontanément, ben on a le truc un peu immédiat. Ce qu'il faut, c'est emmener les gens dans de la délibération collective, dans des espaces où on fabrique
Le meilleur comédien de l'AME, il va dans les poches des médecins, il va pas dans les poches des gens qui sont soignés.
C'est 0,4% du budget de la Sécu. Les médecins eux-mêmes disent c'est quoi qui va se passer. Eux, ils vont se retrouver dans une situation, ils ont signé le serment d'Hippocrate.
Donc ils vont soigner quand même.
On va soigner les aînés. Certains soigneront gratos.
D'autres le feront pas.
Gratos. Ouais. La responsabilité leur appartiendra. Voilà. C'est plus l'état social, c'est plus l'état collectif, c'est l'état. Ça sera individuel. Moi je soigne ou je soigne pas.
Voilà.
Et ça, s'en remettre à cette loterie-là, c'est insupportable. C'est insupportable parce que ces gens-là qui seront malades, c'est des gens qui peuvent effectivement avoir des maladies contagieuses, voilà, disons-le. Donc c'est même d'un point de vue purement pragmatique, c'est complètement délirant d'aller vers ça. Et les médecins l'ont dit. Le directeur de la PHP de l'hôpital public l'a dit. Tout le monde le dit. Les médecins le disent. Voilà, il faut aussi écouter sagement ce que nous disent les médecins.
Juste avant de la deuxième pause musicale, parlons un petit peu d'actualité internationale, puisque cette année aussi, elle a été riche en graves événements, dans lequel la NUPES n'a pas toujours réussi d'ailleurs à avoir une voix commune. Les derniers événements en Israël et en Palestine en sont un bon exemple. La NUPES s'est bien déchirée. Comment arriver à soutenir le peuple palestinien sans paraître antisémite sur cette question? Personne n'a encore trouvé la réponse, il me semble.
Non, je pense que c'est compliqué. Je pense que on a collectivement, nous avons péché par des années d'oubli du caractère extrêmement structurant du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus, on n'en parlait plus. On a tous péché là-dessus. Je veux dire, collectivement, c'était un sujet lointain qui n'était plus là. Il nous est revenu en pleine gueule, je peux le dire comme ça, en parlant un peu directement, par les attentats du 7 octobre, qui étaient affreux. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait cette condamnation absolue sans distinction. Maintenant, depuis, on est dans la vengeance. On est
même sur cette première phase, la NUPES a montré une difficulté à ne pas donner. Enfin, ouais. En fait, la question c'est les circonstances atténuantes.
Oui, mais moi ce que je trouve terrifiant,
ça, c'est terrible.
C'est vrai, mais ce que je trouve terrifiant dans cette séquence là, c'est qu'il soit plus important de parler des déchirements de la NUPES que de parler du fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a aussi masqué la non-action de la France, les non-interventions de notre pays. Moi, j'ai pas, par exemple, je vais vous raconter. J'ai fait en sorte de sortir une famille qui était en Cisjordanie, quelqu'un qui était parti voir sa famille et qui était coincé sur place. Et j'ai discuté directement avec la ministre, ses services, pour pouvoir faire en sorte que cette personne soit rapatriée via la Jordanie et revienne à Orléans, parce que c'était une famille d'Orléans. Je peux vous dire que le mépris initial... On disait à la personne, vous avez qu'à aller à pied jusqu'à un checkpoint et puis peut-être quelqu'un pourra venir vous chercher, montrait quand même que notre pays ne s'organisait pas pour rapatrier les ressortissants, en l'occurrence palestiniens, franco-palestiniens. Voilà. Je le dis, c'est là-dessus qu'unanimement nous pouvions demander à notre pays, nous aurions pu pousser notre pays à jouer un rôle autre que celui qu'il a joué en soufflant le chaud, le froid, en n'ayant pas... En ne demandant pas le cessez-le-feu, le président a fini par le dire, puis finalement plus le dire de manière claire, en demandant à ce qu'il y ait des témoins de ce qui se passe là-bas. On a l'OMS qui s'inquiète de l'état sanitaire dans la bande de Gaza, qui est insupportable. Israël avait le droit à sa sécurité. Je veux dire, il faut le dire, mais... les Palestiniens ont droit à
le droit d'assassiner du peuple palestinien.
Ont le droit de vivre en paix. Beaucoup aspirent à ça. D'ailleurs, dès qu'on entend des... Nous, on a auditionné avec mon groupe l'ambassadrice de Palestine. Mais on a aussi échangé avec la gauche israélienne. La gauche israélienne, c'est intéressant de les entendre. Ils ont une position qui est finalement en Israël, ils ont été collectivement meurtris par ce qui s'est passé, et même la gauche. Et même la gauche.
Mais c'est eux,
même
qui ont la gauche israélienne. C'est eux qui ont été le plus attaqués par le Hamas, quand
mais
même.
Oui, mais oui.
C'est pas l'extrême droite israélienne qui a été attaquée.
Mais non, c'est la gauche.
C'est la gauche et les jeunes israéliens qui ont été attaqués.
Et Netanyahou. Et Netanyahou. Par contre, ils sont unanimes pour dire que Netanyahou est un complice de ce qui s'est passé.
L'argent
avec
du
Hamas.
Hamas, il est passé par Israël.
Et il aurait dû y avoir des élections pour qu'il y ait une autorité palestinienne qui soit réélue. Vous savez ce qu'a bloqué ? C'est qu'Israël a empêché que l'élection ait lieu à Jérusalem. Elle voulait bien qu'elle ait lieu dans la bande de Gaza, en Cisjordanie. Et les Palestiniens disaient, ben non, vous imaginez, nous, on dirait qu'il y a des élections en France, mais pas en Bretagne.
C'est qu'en France... Voilà.
Sauf qu'il n'y a pas eu d'élection, donc il n'y avait plus d'autorité palestinienne.
On a du mal
et ça a arrangé Netanyahou qui s'est basé sur ses relations avec le Hamas et qui a fait monter finalement le Hamas en puissance.
On a aussi du mal de qualifier que c'est l'extrême droite, une fois de plus, palestinienne, puisque le Hamas, c'est l'extrême droite palestinienne et l'extrême droite israélienne qui participent au pouvoir, qui se sont nourris et qui se sont fait l'échelle les uns les autres. Et on arrive à cette situation. C'est-à-dire que la paix a été tuée par ces deux extrêmes droites.
Oui, mais je pense
et ces deux nationalismes.
C'est vrai,
c'est
mais,
ça qu'il faut
mais je pense aussi, que l'Occident a péché en finalement ne regardant plus, en oubliant les accords historiques. Entre Israéliens et Palestiniens, les résolutions, la solution à deux États, on a, c'est un simulacre de solution. Il y a pas de, aujourd'hui, elle n'est pas organisée cette solution à deux États. Quand vous avez un État morcelé, quand l'impôt qui permet de payer les fonctionnaires palestiniens est géré directement par Israël, quand l'accès à l'eau est géré directement par Israël, on peut pas, voilà, et tous les intermédiaires internationaux qui étaient censés organiser la paix ont failli, ont laissé la situation et elle nous réexplose à la figure. Et ça, on a une responsabilité et il faut pouvoir revenir là-dessus, il faut pouvoir discuter de ça et prendre à bras le corps cette situation aujourd'hui. Un cessez-le-feu immédiat et évidemment organiser une paix durable. Et je crois qu'il faut revenir sur la solution à deux États, mais il faut la travailler profondément, pas en l'état actuel, c'est inacceptable.
Bon, on va se faire une deuxième pause musicale pour changer de sujet, pour parler un petit peu d'écologie, parce que finalement, on reçoit un député...
écolo, il n'y a pas tant.
Et on en a parlé, mais pas tant que ça. Là, c'est une pause que tu as choisie, Mano Negra,
ouais.
Clandestino, là, c'est un...
Ouais, c'est un message.
Un message. Voilà.
J'en ai plein des messages, mais dans le moment, ouais, Clandestino, c'est... voilà, ça parle de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on vit plein de gens.
Clandestino sur la radio Béton.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
These are the times that try. time and souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out.
La dernière partie de ce déo et débat du 30 décembre 2023, consacré à un petit retour quand même sur l'actualité politique de cette année avec Charles Fournier, notre invité, le député.
Notre député
de Tours, voilà. Et on va parler un petit peu d'écologie, puisque
il est écolo.
C'est ta bannière. Alors, pour paraphraser notre président, mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas.
C'est mon projet. C'est notre projet, voilà. Et maintenant,
il n'est pas écologique.
Non, il n'est pas.
Il n'est même pas très sensible à tout ça. Hein.
Non, en tout cas, il trouve toujours la force des mots. Mais face à la faiblesse des actions, c'est-à-dire qu'il y a un décalage quand même phénoménal entre ce qu'il raconte et ce qui est fait.
L'année dernière, il découvrait le changement climatique. L'année dernière, on veut.
Incroyable de pouvoir dire ça. Là, il y a une baisse des émissions de gaz à
effet de serre.
Qui aurait pu prédire? Là, il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, ça va être défendu comme à l'actif du gouvernement. Mais en vrai, c'est très conjoncturel. C'est très lié à des évolutions de nos activités économiques, beaucoup moins qu'à des actions politiques majeures qui auraient inversé la donne. Et même quand il y a une baisse, elle n'est pas suffisante par rapport à ce qui serait nécessaire. Donc non, je pense que ce n'est pas le quinquennat de l'écologie. Ça a été un quinquennat, le premier particulièrement de l'inaction. Il a été condamné. L'État français a été condamné pour inaction climatique. Et là, on est encore dans les mots. Et on sent que ça revient cycliquement, mais que finalement, ça disparaît sous d'autres priorités et qu'on a préféré faire une loi immigration plutôt que faire la loi de programmation énergie-climat, qui est obligatoire. Cette loi de programmation, on aurait dû la voter au mois de juin. Elle n'est toujours pas votée. On va avoir un texte vide parce qu'il faut trouver des majorités et qui ne dira rien sur nos ambitions en la matière. Mais on a préféré, et c'était plus important, de faire une loi sur l'immigration. Ça montre bien le registre des priorités du gouvernement et du président Macron.
Et il y a des reculs aussi sur la bagnole. J'aime la bagnole. Alors toi, t'aimes la bagnole ou pas alors?
Bon, moi, j'en ai pas. Mais je ne tire pas à boulet rouge sur ceux qui ont des bagnoles, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Par contre, quand je dis qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autrement, moi, ma réflexion, c'est comment on pourrait s'organiser pour qu'ils puissent faire autrement? Comment on pourrait réduire la place de leur voiture? Comment on pourrait progressivement peut-être la faire disparaître? Et pour ça, il faut organiser le fait de pouvoir se déplacer en transport public, de pouvoir mettre son vélo dans un car, de pouvoir prendre un car puis un train sans que ça soit une galère, sans que ça soit compliqué, sans qu'on soit en risque d'être sans arrêt en retard à son boulot et de risquer de perdre son boulot. C'est tout ça qu'on n'a pas organisé. Il y a des pays qui ont avancé beaucoup plus vite que nous sur ces questions-là. Nous, je crois qu'on a beaucoup de retard et donc évidemment que la bagnole tient encore toute sa place. Il y a un aspect de liberté dans la voiture, il ne faut pas le nier. Le jour où il y a eu la voiture, on a pu aller explorer le monde, aller plus loin. Moi, je ne peux pas faire comme si tout ça n'existait pas. Par contre, il ne faut pas laisser à croire que la voiture moderne ne polluera pas. Elle continuera à poser des difficultés. Donc, il faut bien imaginer d'autres manières de se déplacer. Et je vais le dire, les transports en commun, moi, je suis en vélo, en train, je n'ai pas de voiture. Franchement, je rencontre plein de gens. Tout le monde sait que le député, il se balade à vélo à Tours. On l'interpelle dans la rue. Je serais dans ma bagnole, ça ne m'arriverait pas ça. Donc il faut aussi raconter l'histoire sans voiture, ce qu'elle a comme bénéfice pour pas seulement l'écologie, mais aussi pour notre vie en société. Et je crois beaucoup au fait qu'on peut être heureux sans voiture. On a eu besoin de la voiture à un moment donné, on a sans doute été heureux, plus libre avec la voiture, mais qu'il y a plein de manières d'être heureux aujourd'hui, y compris sans voiture.
Avec un gouvernement qui a vite fait de taxer les gens d'éco-terroristes. Hein. On t'avait déjà reçu à propos des manifs méga-bassines. Le gouvernement qui a essayé de tuer, en tout cas d'interdire les soulèvements de la terre, qui finalement existent encore. Et on a fait ils ont rebaptisé Radio Béton, Radio Terre Paille, début décembre, puisque c'était un grand mouvement contre le béton, la Farge et compagnie. Donc, toi, tu es sur toutes ces. Tu suis toute cette actualité.
Moi, je suis très inquiet de ça parce qu'il y a une volonté de criminaliser la question de l'écologie. C'est une question qui bouscule, qui réorganise nos vies, qui réorganise le travail, qui réorganise l'industrie, je l'ai dit tout à l'heure. Et face à ce sujet-là, il y a des fronts, un front anti-écolo. Et ce front, il va de la droite au macroniste.
Il est large.
De l'extrême droite au macroniste. C'est-à-dire tout sauf ce qui va finalement transformer nos vies. Et je le dis pour du mieux, il y aura du moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du mieux. Moi, je suis convaincu que plein de choses dans nos vies sont totalement inutiles, nous créent finalement plus de tracas que de bien-être et de bienveillance. La voiture, combien de fois on s'énerve parce qu'on ne trouve pas de place, parce que c'est un enfer.
Alors encore pourrait... un adepte de l'écologie punitive.
Mais moi, je pense que c'est pas l'écologie qui est punitive, c'est l'absence d'écologie qui crée une punition pour tout le monde. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'écologie, on n'isole pas les logements. Ce sont les plus pauvres qui prennent le plus cher, qui vivent à côté des zones les plus polluées, à qui on va rajouter tel ou tel impact néfaste sur la vie de tous les jours. Ceux qui ont accès à la malbouffe sont plutôt ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à la bonne bouffe. Ce qui est un scandale. La bonne bouffe devrait être pas chère et la malbouffe devrait être chère. Si on était dans une société où les valeurs fonctionneraient normalement.
C'est des sodas.
Aujourd'hui, c'est ce qui est bon qui doit être labellisé et ce qui n'est pas bon n'a pas besoin de l'être. C'est-à-dire que ce qui est bio, il faut un label, il faut démontrer que c'est bon.
C'est cher parce qu'on fait, faut
mauvais,
payer des labels.
Il n'y a rien à démontrer. Ouais. C'est juste, c'est mauvais, c'est partout et tu y as accès facilement. Voilà, on est bien dans une inversion de valeur, moi je trouve, dans le fonctionnement de société. Donc moi je suis pour une écologie, au contraire, qui est une écologie qui va éviter la punition pour toujours les mêmes. Voilà, parce que la punition, oui, certains vont être un peu punis d'avoir trop consommé, d'avoir excessivement abîmé notre planète. Et ce sont les plus riches. Là, il y aura de la punition. Si on peut appeler ça de la punition, il y aura de la régulation, il y aura des règles qui font qu'on ne peut pas, au détriment des autres, consommer tout seul ce à quoi les autres n'accèdent absolument pas. Il faut le partage. Voilà.
Bah, du coup, c'est quoi le menu du réveillon alors? Le menu du réveillon autorisé par les instances des verts.
Un réveillon non punitif.
Alors, tout est autorisé.
Du coup, pas de foie gras, on est d'accord.
Vaut mieux éviter le foie gras. Après, certains prendront du foie gras. Si certains mangent du foie gras, je veux dire, le tout ne va pas se jouer autour de ça. Voilà, c'est pas central et on a droit à des moments festifs. Donc voilà, moi, personnellement, je ne mangerai pas de foie gras. Et je vais faire même un réveillon itinérant. C'est un peu nouveau. Je vais.
Ouais, tu piques assiette chez plein de monde, c'est ça?
C'est un copain à moi qui fête son anniversaire et qui a décidé d'organiser son réveillon chez plusieurs personnes. Donc on va commencer dans les îles. Avec une ambiance plutôt les îles, après une ambiance chanson française, fromage au quartier du Sanitas, et on finira chez moi en dance floor, ce qui ne me caractérise pas forcément, mais en tout cas, ça sera la dernière étape. Et donc, c'est lui qui a trouvé les moyens d'organiser son anniversaire chez les gens et de faire un réveillon itinérant. À pied, bien sûr, il va de soi.
Des reculs aussi sur le glyphosate?
Ouais, ça c'est terrifiant parce qu'on sait le danger. Je pourrais parler des polluants éternels, si vous me donnez 3 secondes pour en parler, c'est quand même important que les tourangelles et les tourangeaux sachent que moi j'ai beaucoup de polluants dans mes cheveux. Que ces polluants, on les retrouve dans les mousses incendies, dans les plastiques, dans les emballages alimentaires, partout. Et
Mais qu'est-ce que tu as été sniffé dans ta jeunesse, toi?
Je me demande ce que j'ai pris. Mais en tout cas, j'en ai 10 fois plus que mes autres collègues, 10 fois plus. Et ça vient donc de Tours, parce que c'est forcément une exposition récente dans les 6 derniers mois. Et à Tours, qu'est-ce qui peut expliquer ça? On n'a pas une histoire industrielle là, locale. Si, il y a eu par exemple il y a 30 ans, vous vous rappelez de Protex?
Protex.
Devenu Syntex. Il y a eu un incendie, vous vous rappelez de ça?
Oui.
Il y a eu une pollution généralisée de l'eau potable. Il y a eu une coupure de l'eau potable pendant 8 jours. Je ne sais pas si c'est ça. Mais une des hypothèses est que peut-être la pollution a été généralisée à ce moment-là. Et comme ils sont persistants, ces polluants, pendant 40 ans, ils ne bougent pas et il y en a partout. Dans l'eau potable. Vous avez le directeur de l'ARS d'Occitanie qui est rentré d'une réunion et qui a dit « Oh là là, faut arrêter de consommer l'eau potable ». Vous vous rendez compte de ça? En Île-de-France, on vient de dire là qu'il ne fallait pas manger les œufs à cause des fumées, des incinérateurs probablement et des dioxines qu'il y a dans les incinérateurs. Donc pour vous dire, c'est la vie des gens qui est en jeu derrière ça. Et quand on parle du glyphosate, je suis désolé, il y a des alternatives qui existent déjà aujourd'hui. Je suis pour soutenir les agriculteurs dans leur transition, mettre le paquet là-dessus, mais certainement pas leur laisser à penser que c'est par le glyphosate qu'ils pourront s'en sortir. C'est leur santé qui est à jeu, c'est notre santé qui est en jeu, et ça c'est inacceptable, et je crois que la France a failli. Le président a une responsabilité majeure sur ce sujet.
Et pendant ce temps-là, donc Europe Écologie Les Verts, out, et les écologistes, ouais. Welcome. Est-ce que c'est la réponse à tout, quoi?
Non.
C'est ça qui va être un espoir?
Non, mais par contre, je pense que les partis politiques aujourd'hui sont en difficulté. Dans la perception des gens, ils ne sont pas positifs, ils ne sont pas les vecteurs de formation, d'élévation, de transformation de notre société. Et donc, je pense que c'est sain qu'un parti se repose et réinvente, essaye de se réinventer. Moi, j'ai fait partie de ceux qui, dans le congrès de mon parti, ont porté cette motion pour la refondation du parti. J'étais avec la maire de Poitiers, tous les deux, les premiers signataires, pour pousser à ce que notre parti se réinterroge, particulièrement après la séquence que nous avions vécue. Voilà. Après, le changement de nom, c'est marketing. Voilà, mais le marketing a gagné tous les univers, la politique aussi. C'est pas central. D'ailleurs, on a gardé Europe Écologie Les Verts en sous-signature
pour baseline,
exactement, pour pas perdre cette perspective-là. Après, les écologistes, ça a le mérite d'être simple. Voilà, et ça, je pense que c'est pas inutile. Ouais. Europe Écologie Les Verts. Bon, voilà. Oui,
et l'acronyme EELV qui pouvait perdre.
C'était quand même pas simple et tout le monde se plantait.
Et comme il y aura toujours un autre candidat qui dira que lui, il est écologiste,
les écologistes, c'est
de notre côté. La droite avait dit.
C'est marqué dessus.
Non, mais par contre, sur l'écologie.
Parce que l'écologie, on prend un
nouveau débat, car il nous reste 10 secondes pour conclure.
Bon,
merci Charles, merci François, merci Véro.
Merci.
Et on laisse la place à l'émission suivante sur la Radio Béton.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.